Bonjour à toutes, bonjour à tous. Au nom des élus et des habitants du territoire, on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui à Cluny pour ces quelques jours que vous allez passer avec nous. On m'a chargé, donc on a tiré à la courte paille entre élus, histoire que vous n'ayez pas la longue série de chacun venant faire son mot. Donc le sort est tombé sur moi et je vous dis quelques mots d'accueil avant de laisser la place aux participants de la première table ronde. Vous êtes donc ici au sein de l'abbaye de Cluny, un lieu qui a été fondé au début du Xe siècle. Et les historiens nous disent qu'à cette époque, c'était le Seculum Obscurum. Donc même si vous n'êtes pas latiniste comme je ne suis pas non plus, vous comprenez que la période ne devait pas être très favorable. C'était une période d'invasion, de guerre, d'épidémie, de famine, de domination, d'exclusion. Des choses qui, à l'époque, amenaient à se poser des questions sur la vie des générations qui allaient suivre. Et dans ce monde qui précédait l'an 1000, la question de la vie après la vie de la génération présente était une question centrale et sans doute a été une des raisons du développement de communautés monastiques comme celle de Cluny, qui en fait ont contribué à changer les modes de vie. À l'époque, eh bien, des communautés se sont replongées dans la règle de Saint-Benoît et ont décidé de vivre en communauté, dans la sobriété, avec des régimes alimentaires particuliers, avec une activité qui était faite de travail et de prière, avec l'idée d'une implantation locale en relation avec le milieu environnant. Et comme Cluny, d'autres ordres monastiques ont finalement essaimé, rayonné, et l'Europe s'est couverte de ce type de lieux d'activité, de lieux de vie, de lieux où on pensait, on faisait différemment que dans le siècle qui était tellement troublé et que connaissaient les habitants de l'époque. Alors nous sommes maintenant quelque chose comme 11 siècles plus tard et malheureusement les mots de épidémie, domination, guerre, violence, etc., exclusion, sont, je dirais, toujours ou à nouveau d'actualité. Et si nous sommes ici ensemble, c'est pour échanger, réfléchir à cette question des modes de vie, à cette question de la vie après la vie de notre génération. Et pour ceux qui étaient hier dans la salle, nous avons vu combien, en fait, les responsables que nous sommes, en grande majorité ici, vu nos âges, ne seront pas nécessairement ceux qui auront le plus à souffrir de la situation que nous avons contribué à créer. Et donc cette question du moment d'après, de l'instant d'après, pour reprendre le nom de l'association qui a le plaisir de vous accueillir aujourd'hui, eh bien, est plus que jamais d'actualité. Alors, en quelques mots, peut-être, je vous présente le territoire qui vous accueille et la façon dont, à notre petite échelle, nous essayons, les habitants, les élus, de nous inscrire dans cette bifurcation, parce que je pense que le terme bifurcation est bien préférable à celui de transformation, qui laisserait penser un processus relativement fluide et continu. Non, c'est bien une question de bifurcation que nous avons tous à gérer. Alors le Clunisois, ce sont 41 communes autour de la commune centre de Cluny, dont je salue Marie Fauvet, maire de Cluny, qui est ici avec nous au premier rang. Donc ce chef-lieu de 5000 habitants, vous voyez, on est de la petite échelle, et autour 40 autres communes dont la taille moyenne est de 250 habitants. Donc on est vraiment en milieu rural très fin, puisque ces villages de 250 habitants en moyenne ont en général plusieurs hameaux. Donc ici, l'unité de vie, c'est le hameau de 50 habitants à peu près. Et dans ce contexte-là, eh bien, nous nous sommes posé la question de savoir, à notre échelle, comment nous pouvions contribuer à cette bifurcation qui est nécessaire. Au début du mandat, nous avons travaillé pendant un an à peu près, 75 réunions, au cours desquelles nous avons consulté, travaillé et réfléchi, en prenant en compte l'ensemble de nos besoins fondamentaux. Se nourrir, se déplacer, se loger, partager l'eau, accueillir, se former, etc. Et dans chacun de ces domaines, nous avons analysé la situation dont nous héritons Et nous nous sommes demandé ce qu'il y avait lieu de faire pour rendre ces différentes activités, je dirais, durables, pour prendre ce terme. Et c'est ainsi que nous avons, domaine par domaine, et petite région de notre territoire par petite région, à l'échelle de quelques villages, nous avons réfléchi et nous avons identifié un certain nombre de projets à mener ensemble. Le titre de ce projet de territoire, qui est notre référence pour la durée du mandat, c'est « Vivre ensemble en Clunisois dans le monde d'après ». Donc chaque mot compte, « Vivre ensemble ». L'idée est véritablement la conviction et que changer les modes de vie, ça n'est pas quelque chose qui se fait à l'échelle individuelle, en tout cas pas uniquement et assez marginalement à l'échelle individuelle, mais se fait nécessairement à une échelle collective. Celle, par exemple, des associations, celle des habitants d'un même hameau. Nous avons la chance d'avoir sur ce territoire 650 associations actives et c'est véritablement une très grande chance et c'est pratiquement, je dirais, le moteur de cette bifurcation. Donc vivre ensemble en Clunisois dans le monde d'après. L'idée est aussi que cette bifurcation, ça n'est pas quelque chose de dramatique, ça n'est pas quelque chose de pénible, ça n'est pas quelque chose de punitif, mais c'est quelque chose de convivial. Et on arrive d'autant mieux à faire autrement qu'on le fait avec l'envie de le faire et qu'on le fait ensemble. Et puis d'autres convictions nous animent aussi, c'est que ça n'est pas d'en haut que les solutions nous viendront. On voit bien combien les grandes institutions, les institutions de grande échelle ont de la peine à proposer des solutions et tout au moins à les mettre en œuvre. Et donc, il nous a semblé que c'est encore entre nous que ça serait le plus facile de bouger, de faire avancer les choses et de les partager avec d'autres qui font le même type d'effort. Alors, pour essayer de vous donner quelques illustrations les plus concrètes possibles de cela, voici quelques choses qui sont soit déjà réalisées, soit en cours, soit programmées. Dans le domaine de l'alimentation, par exemple, nous avons, et ça c'est opérationnel, nous avons créé un laboratoire de transformation alimentaire qui est basé à Salornay-sur-Guye, au centre de notre territoire. C'est un lieu où les agriculteurs viennent transformer leur production, qu'elle soit de la viande, des légumes, des fruits, tout type de production, eh bien, ils peuvent là faire des compotes, des conserves, des préparations chaudes, etc. Ces produits, ils peuvent ensuite soit les reprendre et les vendre, soit nous avons aussi dans ce même lieu une cuisine qui prépare les repas pour tous nos centres de loisirs. La communauté de communes anime beaucoup de centres de loisirs, donc tous les enfants du territoire, quand ils mangent au centre de loisirs, et on a calculé qu'un enfant passe à peu près 100 jours par an au centre de loisirs, donc ce n'est pas tout à fait marginal, eh bien, mangent les productions des agriculteurs du territoire, pour beaucoup d'ailleurs en bio. Donc ça, c'est première chose concrète et qui permet de soutenir aussi l'agriculture, qui est vraiment une des activités économiques fondamentales sur notre territoire. Deuxième chose sur la mobilité, bien entendu, nous avons déjà depuis un certain temps travaillé sur tout ce qui est mobilité douce, donc beaucoup développé le vélo, la marche à pied. Mais une des choses originales et concrètes, c'est que nous avons proposé à des petits groupes de communes, 4-5 communes qui le souhaitent, de mettre gracieusement à disposition de ces communes des minibus type 9 places, éventuellement électriques d'ailleurs, et charge à la commune, ou aux communes concernées, de trouver des chauffeurs bénévoles qui vont faire circuler ces navettes pour aller au marché du coin, pour aller le soir au spectacle, au théâtre, pour aller emmener les gens à la ville de proximité pour aller chez le médecin, etc. Donc, un équipement qui est animé par des bénévoles et qui permet de se déplacer non pas individuellement, mais en groupe. Autre type de réalisation, de projet, eh bien, c'est un effort massif sur la rénovation de l'habitat de façon à ce que, d'un point de vue énergétique, mais aussi d'un point de vue de son accessibilité, de son confort. Et là, la communauté de communes a mis beaucoup d'argent, à notre petite échelle, sur la table pour faciliter ce genre de démarche. Également, une action collective qui est constante depuis plusieurs années, c'est l'accueil des personnes réfugiées. Nous sommes convaincus que, et ça a été à nouveau souligné hier soir, que les bouleversements que connaît la planète, pas simplement le réchauffement climatique, mais toutes les tensions qui se traduisent souvent par des guerres, etc., mettent les gens en chemin, en route, qui quittent leur domicile. Et il nous paraît évident que ces personnes doivent être accueillies Et donc nous avons instauré une cellule d'accueil qui coopère énormément avec les associations du territoire. Beaucoup de personnes participent aux cours de français et nous nous efforçons de faire en sorte que les personnes soient accueillies dans de bonnes conditions, logement, travail, garde d'enfants, inscription dans les écoles, etc. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui nous paraît essentiel et on se dit que si malheureusement ça devait nous arriver à nous, eh bien on serait bien heureux que quelque part à l'endroit où on arrive, des gens nous attendent et nous accueillent. Et puis également un travail sur la forêt. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a pas mal de forêts dans le coin, elles sont souvent sur le sommet des collines et beaucoup de ces forêts sont communales, c'est donc un commun que nous avons à cœur d'entretenir et récemment la communauté de communes a acheté 60 hectares de forêt avec l'idée d'y tester des modes de sylviculture innovants, adaptés aux évolutions extrêmement rapides et dont on voit malheureusement les effets sur les arbres actuellement, pour se dire comment peut-on faire pour donner de l'avenir aussi à ces forêts, comment peut-on faire pour que certains espaces ne soient plus touchés du tout, pour autant que ce soit des arbres qui soient capables de résister, ce qui est loin d'être gagné, mais en tout cas une grosse action sur la forêt, où nous conjuguons l'action des habitants, l'action des communes, de la communauté et l'action de l'ONF. Nous avons formé un groupe de travail pour trouver ces modes de gestion des forêts ou de respect des forêts ensemble. Et puis peut-être un dernier exemple, dans le domaine de l'eau, il se trouve que notre territoire, comme beaucoup, et comme ça a été illustré hier dans la présentation de Benjamin, où on voyait nos campagnes en été qui ressemblent maintenant de plus en plus à des tapis brosses, eh bien, et la Grosne, la rivière de Cluny qui ressemble à un oued, mais honnêtement quand je dis pas plus large que le bras, j'exagère pratiquement pas, ou mettons allez, pas plus large que ça. Hein. Et donc dans ce contexte, la question des tensions autour de la ressource en eau devient de plus en plus préoccupante, donc nous avons lancé sur 3 ans une grande étude sur le partage de l'eau en Clunisois, analyser les ressources, comprendre les usages, et penser à une forme d'organisation collective pour pouvoir gérer au mieux ces tensions que nous rencontrons. D'ailleurs, pas uniquement les sécheresses, mais aussi, et on a eu ça cet été, d'énormes orages qui créent des problèmes assez complexes à gérer aussi. Et pour le faire au mieux, eh bien, nous sommes en train de préparer un appel à participation des habitants qui souhaiteraient, par exemple, installer un pluviomètre chez eux et faire du relevé toute l'année, être capable de mesurer le niveau du cours d'eau qui passe devant chez eux, suivre les évolutions de la biodiversité, puisqu'on est par ailleurs aussi un espace de biodiversité extraordinaire avec un programme Natura 2000 qui se déploie sur la vallée de la Grosne. Donc voilà quelques illustrations, absolument pas exhaustives, mais des initiatives qu'en liaison avec les habitants, les associations, les communes et les élus de la communauté de communes, on essaye de prendre. Je termine en disant que nous essayons aussi de faire tout ça en liaison avec des chercheurs et des chercheuses. Donc nous avons des salariés de la communauté de communes qui sont chercheurs et qui mènent une mission opérationnelle en parallèle au développement de leur activité de recherche. Et pour nous, c'est extrêmement précieux parce que ça nous connecte avec d'autres qui réfléchissent, d'autres qui expérimentent, et ça nous donne aussi une méthodologie dans l'action publique qui nous paraît extrêmement intéressante. Nous avons successivement embauché un sociologue, une géographe, une architecte, un urbaniste, qui tous les quatre ont fait leur thèse dans le cadre de la communauté de communes du Clunisois, en liaison bien sûr toujours avec un laboratoire de recherche, et qui ensuite poursuivent leur activité avec nous dans cette démarche de chercheurs. Et je termine en disant aussi que la formation est quelque chose qui nous paraît essentiel. Si nous voulons vraiment rentrer dans cette bifurcation, il faut nous former, les acteurs du territoire, les responsables associatifs, les responsables élus. Et c'est pour cela que le Collège européen de Cluny, qui est basé dans ces murs ici, accueilli par l'École d'arts et métiers, est une association d'éducation populaire qui organise des formations à l'innovation territoriale dans le cadre donc de la bifurcation ou pour la bifurcation. Et nous le faisons conjointement avec l'Université de Bologne en Italie qui décerne le diplôme qui est préparé ici et en Émilie-Romagne. Et donc nous avons pour la première année cette année 8 étudiants de niveau post-master, après le master, qui ont terminé d'ailleurs hier leur formation donc à l'innovation territoriale, disons dans le cadre pour la bifurcation. Donc c'est aussi la raison pour laquelle pendant ces journées, il y aura des formations proposées aux élus locaux en liaison avec Planète Territoire. Le Collège européen de Cluny et Planète Territoire proposeront des petites formations pour les élus locaux qui seront accessibles en parallèle aux différents séminaires que vous allez pouvoir suivre. Voilà, c'est tout. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous souhaite un excellent séjour à Cluny.
Bien. Mesdames et messieurs, bonjour. Faut-je mettre mes lunettes ? Alors, quelques mots aujourd'hui à deux voix, donc avec Aline qui prendra la parole après moi, pour vous souhaiter la bienvenue. Alors, je suis donc Patrick Monin, président de l'Instant d'après, et Aline Archimbault, notre ancienne parlementaire, est aussi notre vigilante et patiente et tolérante trésorière. L'Instant d'après est un collectif écologiste local, pluraliste, dont l'ambition est de faire se rencontrer et dialoguer des intellectuels, des activistes, des élus, des syndicalistes, des fonctionnaires et à terme, si possible, des entrepreneurs autour des pensées de l'écologie. Alors que les proximités orientales et moyennes orientales du continent européen sont frappées par des guerres sauvages et sanglantes, voulues par toutes sortes de fanatiques et d'extrémistes, alors que des milliers de personnes sont poussées à la migration et souvent à la mort par le changement climatique et les marasmes coloniaux ou post-coloniaux, alors que nos propres pays sont menacés par une catastrophe démocratique qui ajouterait encore au risque de guerre civile intérieure, voire de guerre tout court, cette rencontre et ce dialogue sont indispensables. Car nous avons besoin d'unité, d'échange, de rupture avec l'esprit de chapelle. Nous avons besoin de programmes, de mesures concrètes qui lient la question des fins de mois avec celle de la fin du monde. Nous avons besoin de lutter, même ici, car ici aussi, les violences lentement insidieuses de destruction du vivant polluent les sols et les eaux, abattent les forêts, mangent les terres agricoles en périphérie des villes, saccagent les paysages, contribuent à la crise climatique et à la perte de la biodiversité. Nous avons besoin d'alternatives agricoles, et la crise récente nous l'a démontré plus que jamais. Forestières, alimentaires, sanitaires, industrielles, urbaines et rurales. Nous avons avant tout besoin, pour donner du sens à tout cela, d'une direction, d'une perspective, d'un horizon, d'une promesse de civilisation nouvelle. Où donc les écologistes veulent-ils en venir ? Comment rencontrent-ils les catégories populaires pour parler de l'avenir ? Et où ? Sans naïveté ni alarmisme, sans déstabiliser, sans insécuriser davantage encore, sans ajouter de la peur à l'anxiété présente partout. Avec quel poème, quel mot et quel chant d'espérance. Loin d'être un moment d'entre-soi, autosatisfait, nos rencontres se veulent donc un temps de lucidité. Nous devons y prendre conscience du chemin parcouru, nous devons y mesurer les facteurs et aspirations au changement d'ores et déjà présent dans notre société, mais aussi des retards que nous avons pris et des itinéraires qui nous restent à baliser. C'est pour y contribuer que nous avons pris l'initiative de ces rencontres. Je nous le souhaite studieuse et joyeuse. Je vous remercie.
Bonjour, à mon tour de vous souhaiter de la bienvenue et de bonnes et joyeuses rencontres. Moi, je me contenterai de dire quelques mots de la méthode et des ambitions de notre association L'Instant d'après pour l'avenir. Il est vrai que les écologistes, c'est-à-dire nous, au fur et à mesure, ont fait des progrès. Hélas, au fur et à mesure que les crises qu'ils avaient annoncées se développaient, mais nous considérons qu'ils ont pris aussi, que nous avons pris, un certain retard sur les questions de doctrine, de théorie, de récit, d'imaginaire, capable de faire majorité, de faire société. Quelques petits sujets, par exemple, où règne un peu de confusion. Qui sont nos amis? Qui sont nos ennemis? Avec qui voulons-nous faire majorité et société? Autre question, plus d'État, moins d'État, mieux d'État, plus de science, moins de science, mieux de science, plus de villes, moins de villes, mieux de villes, plus d'usines, moins d'usines, mieux d'usines, mais aussi plus de défense, moins de défense, mieux de défense. Ce que l'on conçoit bien doit s'énoncer clairement, et il ressort de tout ça une image des écologistes finalement incertaine, brouillée, et qui ne peut plus convenir dans la période d'incertitude et de doute qu'évoquait Patrick à l'instant. Non que nous souhaitions arriver à un discours monolithique, complètement antinomique avec l'idée même de la diversité que nous voulons incarner, mais parce que nous estimons aujourd'hui nécessaire, pour faire pièce au discours désormais bien rodé de ceux d'en face, nécessaire de décrire clairement ce qui fait commun entre les écologistes, ce qui peut rassembler la société et non continuer à la morceler. Il nous faut donc un peu hâter le pas et pour cela nous appuyer sur l'incroyable foisonnement de revues, de médias, de réseaux, de lieux de production, d'images et de sons, d'initiatives dont témoigne le premier partenariat réuni autour de ces rencontres ces jours-ci. Et donc, à l'image de nos 15 séminaires préparatoires qui ont eu lieu cette année et l'année dernière, nous lançons donc un appel. Nous lançons un appel pour que se tiennent de façon coordonnées et partagées, pourquoi pas sous un label commun, en 2024 et 2025, des dizaines de moments de réflexion et de partage du même type dans toute la France et aussi dans les territoires dits d'outre-mer, autour des questions clés de la transformation écologique et sociale. Collectivités, associations, fondations, syndicats, revues, médias, intellectuels et activistes, porteurs d'alternatives, échangeons autour de cette proposition que nous faisons, échangeons aussi pendant ces 4 jours. Dans l'esprit de pluralisme et de bienveillance des rencontres de Cluny, explorons ensemble, sous une bannière partagée, repérée du plus grand nombre possible, les questions clés de notre société. Portons-nous vers la population pour en débattre avec elle et pour construire des réponses. Faisons connaître davantage les inventeurs intellectuels et culturels, créateurs d'idées nouvelles, les actions qu'ils mènent et qui illustrent leur mode de travail, les modes d'action qui font avancer la cause. Et retrouvons-nous à Cluny pour confronter les résultats de ce travail, pourquoi pas en 2026, alors que des échéances majeures seront à nos portes. Voilà, nous sommes venus toutes et tous ici pour écouter, contribuer. Nous devons repartir avec le projet d'apprendre, d'essaimer et de diffuser le plus largement possible. Merci à vous toutes et tous.